J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, Cédric, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas, dans mon lit. Cédric, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis.
Mais... allez, c'est l'heure de lâcher le mojito, vous vous relevez légèrement. Vous êtes bien sur Béton, il est tout juste 15h pile poil, et c'est Salon de Pauvres. Je recours pas, 72e. Eh oui, 72e, tout le monde est là, c'est bien, Marie-Thérèse est là, et Guylaine est dans son aquarium.
Bonjour à toutes et à tous.
Et maîtrise la situation, donc tout va bien. Alors il y a plein de choses, parce que vous savez qu'on a 2 mois à rattraper, là on n'était pas là le mois dernier, on était au quart comme tout le monde, comme vous aussi j'espère. Et on y va, allez, on y va tout de suite. Salut les feignasses! Alors, bien remis des folles nuits urbaines de la semaine dernière, en passant un gros doigt aux petites ordures qui tirent comme des lapins une femme et 2 gosses au beau milieu de la nuit après avoir tenté de griller leur baraque. Rien ne peut justifier ça, rien. La femme, elle a un tibia pété, ça se recolle. Mais les mômes, ils sont sans doute traumatisés à vie. Ça me rappelle les fous furieux du Ku Klux Klan en cagoulé et qui brûlaient les maisons des Noirs avec les habitants dedans. La même haine, toujours, partout. Même si ici, ça n'a pas atteint un certain niveau, ça n'a pas empêché la peur de s'installer ici et là. On a vu le personnel du centre social pluriel au Sanitas prier de rentrer chez lui en embarquant toutes ses affaires le soir même, après avoir été prévenu que le centre allait cramer cette nuit. Sic, citation. Le soir même, en suivant la manif, je suis passé devant, j'ai pris la grille en photo, toute fleurie de blanc, avec une affichette en solidarité avec Naël. Alors quand vous irez là-bas au centre pluriel, allez faire la bise à notre amie Ingrid qui bosse là-bas et rajoutez-en une de notre part. Et le lendemain, on apprenait qu'un proche de Zemmour avait ouvert une cagnotte pour soutenir le flic qui a exécuté Naël à bout portant. Plus 1 million d'euros la cagnotte. Misère humaine. La haine, ça pousse bien, et même ça rapporte. Et après, tu te demandes pourquoi les gamins y cassent ? Allez, heureusement qu'on a reçu le programme de juillet de la belle poule à Amboise. On répétera jamais assez, tout ça et plein d'autres infos, vous le retrouverez sur notre Facebook, la belle poule, c'est à la page du 1er juillet. Oui, c'est ça, 1er juillet. Du boulot à gogo aussi, merci Marie-Thérèse. Comme tous les mois.
Hein. Exactement.
Merci aussi à nos amis de Territoire Zéro Chômeur de Bléré qui nous ont envoyé une liste longue comme le bras avec du boulot de partout. Et ça, c'était le 19 juin. Toujours sur notre Facebook. Hein, je n'ai pas noté la date, mais c'était en juin, vous avez qu'à fouiner. Un communiqué de la CSF. La CSF, c'est la Confédération syndicale des familles. Sur lequel on reviendra forcément parce que ça annonce rien de bon. Je cite le communiqué. Le projet de loi Kasbarian sur l'occupation illicite des logements a été voté en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 14 juin dernier. Ainsi, un locataire qui n'aura pas trouvé de solution pour se reloger devra s'acquitter d'une amende de 7 500 €, même si la dette locative est due à un accident de la vie, maladie, chômage ou divorce. Alors que le nombre d'offres locatives dans le privé a baissé de moitié, que les congés pour vente à Paris n'ont jamais été aussi nombreux, selon une dernière enquête de l'ADIL, ce sont des centaines de milliers de familles qui pourraient entrer dans la spirale de la précarité. Sachant que 75% du patrimoine locatif privé parisien est classé en E, F ou G, c'est-à-dire les passoires thermiques, nous sommes qu'au début d'une vague de congés entraînant la précarisation des locataires. En raccourcissant les délais d'instruction des dossiers permettant la prévention des expulsions et en limitant les moyens de maintien dans les lieux, le texte criminalise la pauvreté et renforce la précarité. La CSF appelle de ses voeux à un sursaut du Conseil constitutionnel pour rejeter ce texte, critiqué à l'ONU pour bafouer le droit élémentaire des locataires à se loger dans la dignité. Le CSF revendique le gel des loyers, la suspension des congés pour vente pour les logements classés EFG, un contrôle renforcé des logements Airbnb. Ça, c'est un petit peu en route, j'ai l'impression.
Oui. Oui, parce qu'on voit comme en Boise, il y en a plus de 450 de logements Airbnb.
Voilà. Bah...
Donc, je trouve quand même que ça aide beau énormément. Donc, 450 logements, ça fait 450 personnes, 450 familles, oui, qui ne peuvent pas être logées.
Voilà. Bon, bah, on espère que... On va voir qu'est-ce qu'il en dit, le nouveau maire.
Bon, pour l'instant, il s'installe. Hein. Il s'installe.
Bon, attends, on le laisse finir ses valises et puis qu'il pose ses dossiers, qu'il prenne une bière, on viendra l'emmerder plus tard. Allez, bon, la CSF demande aussi un budget à la hauteur de besoin pour la rénovation énergétique des logements et la production de logements habitables. Voilà, c'était un communiqué dont on reparlera. Maintenant, le plus gros, le dossier du mois. Là, vous l'attendiez. On l'attendait aussi, d'ailleurs, pour la raison qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Les travaux forcés. On en parle ici depuis longtemps, en fait. Depuis que notre ami Vincent Louault était venu faire son numéro en vidéo pour sa campagne électorale il y a quelques années, en assortissant le tout de quelques expressions fleuries qui sentent bon la France profonde. Il a eu longtemps son rond de serviette à Radio Béton, preuve qu'on n'est pas rancunier, preuve aussi qu'il avait mis pas mal d'eau dans son vin en découvrant que les allocataires étaient peut-être autre chose qu'un gros tas de feignasses à qui on doit serrer la vis pour pas les laisser faire la bringue à Ibiza avec les sous de nos impôts. Et puis au fil du temps et des émissions, vous pouvez les retrouver sur YouTube en attendant le podcast tout beau, tout neuf qui devrait arriver à la rentrée. Ça, surprise. On vous tient au jus, hein. On a parlé d'autre chose, du revenu minimum, entre autres, il était pour. Mais à la sauce, les Républicains. Hein. Et paf, juste au moment où il partait sur la pointe des pieds pour aller pantoufler au Sénat, là où la cantine est meilleure qu'au conseil départemental, v'là-t-il pas que le Macron nous reprend le refrain et teste même dans plusieurs départements. La suite, la voici. Dans un article de Alternative économique paru ce mois-ci que nous avons relayé sur Facebook, c'est parti en intégrale et avec les commentaires de Salon de Pauvres. Dans 18 territoires, le RSA va être conditionné à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité par semaine avant une généralisation en 2024. Un cran supplémentaire dans l'injonction à l'emploi, j'en bafouille, faite aux allocataires de ce minimum social au montant toujours très faible. La mesure est dans les tuyaux depuis un moment. La mise au rapport de la préfiguration de France Travail, futur nom de Pôle emploi, le 19 avril l'a confirmé. Pour percevoir le RSA, les allocataires devront réaliser 15 à 20 heures d'activité, entre guillemets, par semaine. En précisant au passage que le logo de France Travail qui a circulé sur le net et qui représente un type qui traverse une rue est un fake. Dommage, quand on le connaîtra, on pourra créer France Feignasse. Ça, on va le breveter celui-là. Ça va faire de beaux t-shirts pour aller sur les terrasses pendant que les bons citoyens sont au boulot. 18 départements ont commencé à l'expérimenter, mais on sait d'ores et déjà que la mesure sera généralisée. Ce serait pour 2024. Hein. Avec cette réforme, le gouvernement glisse de plus en plus d'un droit à l'emploi vers une obligation de travailler, avait mis en garde la CGT en janvier. À l'issue de ce rapport, on n'en sait guère plus sur le contenu réel de l'œuvre de service autour des 15 à 20 heures d'activité, a réagi l'association ATD Quart Monde, favorable comme les autres associations de lutte contre la pauvreté à un revenu minimal inconditionnel. Il n'a jamais été question ni de travail gratuit, ni de bénévolat obligatoire. J'aime beaucoup la notion de bénévolat obligatoire. C'est un peu comme à l'armée. Les volontaires, présentez-vous.
Ils vont certainement demander à des agriculteurs qui travaillent plus de 10 heures par jour et d'aller faire des heures en plus parce qu'ils touchent le RSA, parce qu'ils ne peuvent pas se faire...
Il n'y a pas de raison. Vincent Louault, qui est agriculteur, qui travaillait 10 heures par jour, il venait faire des heures à Radio Béton.
Non, mais...
Bon, donc ils peuvent le faire.
Non.
Et pas de mauvaise foi.
Non, qui viennent. Et puis même moi, maintenant, bon, ça va, je suis à la retraite, mais je ne les avais même pas pour travailler ces 15 heures par semaine.
Oh, mais je suis témoin que tu vas faire des heures à Foyette. En fait, il est question de quoi ? Concrètement, il s'agira, selon le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilhuy, auteur du rapport, il s'agirait d'immersion d'entreprise. SIC, immersion d'entreprise, de formation, de passer le permis de conduire, de faire du bénévolat dans une association, etc., etc. Tout ce qui contribue à faire en sorte que la personne reprenne confiance en elle, qu'elle se forme et qu'elle retrouve un emploi.
Il y a déjà plein de personnes qui font du bénévolat et qui sont RSA. Qui viennent voir sur place.
Oui, bien sûr.
Qui viennent voir. Non, au lieu de sortir des âneries comme ça.
Les discours creux, voilà. La France est-elle en train de franchir un cap supplémentaire vers le workfare, les programmes états-uniens qui considèrent que les allocataires d'une prestation sociale apte au travail doivent travailler pour percevoir leur allocation. Avec le glissement est sensible. Notons au passage que la base du bénévolat est le volontariat, pas l'obligation. Et que les associations en général n'ont que faire de se faire refiler des boulets qui vont se pointer en traînant des pieds juste parce que c'est ça où on leur coupe les vivres. Le département de Seine-Saint-Denis, qui avait d'abord signé pour l'expérimentation, s'en est retiré fin mars. La goutte d'eau a été le discours présidentiel du 22 mars quand Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait aller chercher ses bénéficiaires et les responsabiliser. C'est une citation. Pour nous, c'est inacceptable car le RSA est un droit social fondamental, a souligné le président du conseil départemental, donc de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. La sanction ne sera pas automatique, a répondu le haut commissaire Thibaut Guilhuy. La décision finale relèvera bien du président du conseil départemental. Bon, pour ce qui est de l'Indre-et-Loire, on souhaite bien du courage de M. Jean-Gérard Pommier. Bon courage, retroussez-vous les manches. L'automaticité de la sanction serait un coup de tonnerre. En l'état du flou actuel, la réforme constitue surtout un pas supplémentaire vers une tendance de long terme, celle de l'injonction à l'emploi faite aux allocataires du RSA. Dès leur mise en place dans les années 90, les politiques d'insertion mettent l'accent sur la responsabilité individuelle. Citation. Très vite. On est passé du droit à un revenu minimal garanti par la collectivité et inscrit au préambule de la Constitution de 1946 à une incitation à travailler, résume l'économiste Anne Hédoux. Pression inefficace, au cours des années 1990 puis 2000, les différents minima sociaux ont été assortis de telles incitations. Depuis la transformation de RMI, revenu minimum d'insertion, en RSA, revenu de solidarité active, en 2009, cette prestation est complexe à obtenir, en particulier lorsqu'elle se combine à de petits revenus. Son attribution fait déjà l'objet de contrôles et de sanctions, réduction ou suspension, en cas de non-respect de démarches d'insertion professionnelle ou sociale. C'est-à-dire, en clair, souvent c'est la simple non-assistance à une réunion ou à une convocation... Ouais. Bon, et en fait, ça varie énormément d'un département à l'autre, selon la composition des commissions, selon le bon vouloir des élus locaux. Et en fait, c'est le bordel le plus complet. Certains départements sont allés plus loin. En 2016, le Haut-Rhin a ainsi voté l'obligation de 7 heures de bénévolat par semaine pour les allocataires du RSA. C'est 1 heure de bénévolat complet. Voilà, c'est-à-dire non payé. C'est la légalisation du black, avec même pas de sous derrière. Très contesté, le principe a finalement été validé par la justice au bout de 4 ans. Est-ce qu'il y a eu un audit de fait pour voir si ce machin est au moins efficace à défaut d'être juste? On n'en sait rien. En tout cas, on n'a pas vu la pub que le gouvernement n'aurait pas manqué de claironner si les résultats avaient été probants. Problème, la pression mise aux allocataires ne produit pas les effets escomptés, comme l'a montré une étude récente. Les contrôles des bénéficiaires du RSA ne sont pas très efficaces, explique Yannick Lorty, un des co-auteurs de l'étude. L'envoi de courriers rappelant aux allocataires leurs obligations sous menace de suspension ou de radiation de leurs droits n'a pas beaucoup d'effet sur le respect de leur contrat. Ces messages d'avertissement conduisent en réalité à des sorties du RSA sans que l'on sache si les personnes concernées ont retrouvé un emploi. S'il n'est pas exclu que ce soit le cas pour certains qui sont moins en difficulté que d'autres, la radiation les oblige à se réinscrire, donc à reprendre de zéro leur parcours d'insertion, poursuit le chercheur. Nombre d'allocataires sont demandeurs d'un meilleur accompagnement, mais il n'est pas nécessaire de l'assortir d'une obligation d'activité, d'autant que les politiques d'insertion agissent à la marge. Ce qui a vraiment un impact sur le chômage, ce sont les créations d'emplois, explique Anne Edou. Un discours difficilement audible à l'heure où les employeurs se plaignent de difficultés de recrutement. Dans son rapport, Thibaut Guilly présente un paradoxe de plus en plus difficilement compréhensible par les citoyens. D'un côté, de nombreuses personnes dépourvues d'emploi, de l'autre, des entreprises qui peinent à recruter, et de citer le chiffre de 3 millions d'intentions d'embauche en 2023. Issu de l'enquête « Besoin de main-d'œuvre » de Pôle emploi, ce chiffre ne peut toutefois pas être mis en regard des 2,8 millions de chômeurs de catégorie A et du 1,8 million de foyers percevant le RSA. Les intentions d'embauche ne se traduisent pas en création nette d'emplois. En 2022, 3 millions d'embauches avaient été déclarées et 300 000 emplois salariés dans le privé ont été créés. Les emplois à pourvoir sont soit qualifiés, couvreurs-zingueurs qualifiés, pharmaciens, choses comme ça, soit correspondent à des conditions de travail difficiles, cuisiniers, serveurs, aides-ménagères, manutentionnaires, etc. L'appariement entre chômeurs de longue durée et allocataires du RSA d'un côté et emplois non pourvus de l'autre n'a rien d'une évidence. Et on ne parle même pas des précaires, des contrats saisonniers, des problèmes de logement, notamment pour ce qui est des saisonniers dans la restauration, sur les côtes, etc., etc. En plus. Et rien que ça représente un bon paquet d'emplois. Aujourd'hui, le RSA constitue un socle de revenus pour 1,8 million de foyers, soit près de 4 millions de personnes avec les conjoints et enfants pour une dépense publique de 15 milliards d'euros, primes d'activité et accompagnement compris. Cela représente 7 000 euros par ménage et par an, ce qui en fait une des aides publiques les moins coûteuses par rapport à son impact social. Rappelaient les chercheurs Yannick Lorty, Rémi Le Gall et Sylvain Chariron en 2022. Pour une allocation d'un montant qui reste très insuffisant, 607 euros pour une personne seule, je suis en train de me dire que ça a peut-être un petit peu monté depuis.
Oh, pas beaucoup. Hein.
Mais ça doit être 609 ou quelque chose
c'est
comme
insignifiant.
Ça. Bon. Ah, faut être rigoureux parce qu'après, on va nous le reprocher. Alors, bon. Et 1519 euros pour un couple avec 3 enfants. Et avec un taux de non-recours de plus de 30%. Rien que ça, c'est à méditer comme chiffre. Pour remédier à cette situation, il faudrait créer des emplois décents, non qualifiés et de proximité, comme le fait par exemple le programme Zéro Chômeur de longue durée, dont on parle souvent ici. Cela impliquerait de dépenser beaucoup plus, et pas dans la direction prise par le gouvernement. On peut ajouter à ça que bon nombre de questions restent sans réponse. On va balancer des milliers de dossiers à des employés de France Travail sur une surcharge de travail qui est ingérable. Rémunération, sur quelle base? Cumulable ou pas? Passer le permis, qui se charge des frais? Et bien d'autres encore. À suivre donc. En attendant, pour terminer, un exemple concret d'action positive et pas punitive. On va parler de Laurine. Alors, Laurine, elle a 17 ans. Elle vient de recevoir 1200 euros pour financer son permis de conduire. Cette bourse, elle l'a reçue grâce au pass engagement. Le principe, tu t'engages bénévolement dans une association costar-mauricaine, j'y reviendrai après, ou un centre social pour une action de service aux personnes, solidarité, jeunesse, personnes âgées, aide aux devoirs, etc., etc. En échange de cet investissement de 2 heures minimum par semaine, 2 heures, tu reçois une aide pour financer un projet personnel et ou professionnel de mobilité, de formation ou de logement. Le pass engagement s'adresse aux 16-25 ans et peut atteindre jusqu'à 1200 euros. De septembre à début juin, Laurine est intervenue tous les mercredis de 14 à 17 heures dans l'EHPAD Jeanne Guernion à Saint-Brieuc. Elle participait aux animations proposées aux résidents, leur proposait des balades et discutait avec eux. Une expérience très riche pour cette lycéenne en première commerce au lycée Jean Moulin de Saint-Brieuc. J'ai été très bien intégrée et j'ai pu développer des compétences en communication, confie la jeune fille. Ces 1200 euros vont lui permettre de financer une partie de son permis dont le montant estimé s'élève à 1500. Je commence la conduite en septembre, explique-t-elle. Je voudrais avoir mon permis pour mes 18 ans, car si je fais un BTS en alternance, j'aurai sûrement besoin d'une voiture pour me rendre en entreprise. Le pass engagement peut être sollicité pour financer d'autres projets comme le BAFA ou une formation. Il est financé par le conseil départemental. Ne sortez pas le champagne trop vite, c'est dans les Côtes d'Armor. L'histoire de Laurine, elle était sur notre Facebook et la page du 15 juin. On verra bien si de telles mesures sont prévues dans le projet Macron, dont on pourrait découvrir les détails dans les prochaines semaines. On pourra sans doute en parler en détail avec Madame Darnay-Malaquin, élue, qui viendra s'asseoir sur le siège encore tout chaud de Vincent Louault. Elle aurait dû venir aujourd'hui, mais ça n'a pas été possible, c'est remis à plus tard. Tant mieux, ça nous permettra sans doute d'en savoir un peu plus sur ce plan, qui tout de même inquiète un peu quand on voit l'étalage obscène de lieux communs, de contre-vérités et de stigmatisation qui s'étale un peu partout et jusqu'au sommet de l'État. Allez, bonnes vacances les feignasses.
Merci Alain. On va passer maintenant à Marie-Thérèse qui a certainement des choses très intéressantes à nous dire, notamment puisqu'on débute l'été, nous sommes au mois de juillet, sur un certain nombre d'activités, de sorties qui sont gratuites.
Ouais, ouais. Juste avant, je vais quand même redonner le nom du groupe parce qu'Alain ne l'a pas donné.
Ah oui?
Oui, ben voilà. Allocataire du RSA des gens comme les autres.
Ouais, vous, je le savais. Hein.
Oui, mais je ne l'ai pas dit.
Bon.
Voilà.
Bon, et puis, je m'excuse très fort, très fort.
Voilà. Donc, et puis vous pouvez aussi nous joindre par mail à notre adresse salondepauvre@gmail.com.
Absolument.
Voilà. Et puis nos émissions donc jusqu'au mois de mars, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne Salon de Pauvre.
YouTube.
Voilà, YouTube. Salon de Pauvre.
Et ouais. À partir de la rentrée, comme je l'ai dit,
oui, voilà.
Il y aura un podcast, on y reviendra.
Et puis, je voudrais quand même en profiter pour remercier de nouveau Ingrid pour avoir mis nos émissions jusqu'à présent en ligne tous les mois. Donc, la remercie. Et puis, si elle est là pendant les vacances au mois d'août, si elle est là, qu'elle vienne nous faire un petit coucou.
Ah bah oui, bah voilà. Oui.
Donc, maintenant, je vais passer, aux activités, aux sorties qu'on peut faire pendant les vacances.
Ah bah oui. Donc, il y a à boire.
Bah ça, tu peux toujours boire. Hein. il y a toujours des gratuits. Ça, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Donc, il y a les visites. Donc, je voulais en parler le mois dernier, au mois de mai. Mais bon, on avait un invité. Je n'ai pas pu le dire. Donc, il y a les visites de musées qui ont lieu tous les premiers dimanches de chaque mois, qui sont gratuits pour les adultes. Et autrement, c'est toute l'année pour les moins de 18 ans, dans la plupart des musées. Donc, ça, c'est une sortie que vous pouvez faire, pas obligatoirement le premier dimanche, parce que juste pour les adultes, mais autrement, c'est tous les jours qu'on peut aller visiter des musées. Il y a certains châteaux aussi qui proposent une carte à l'année qui permet d'accéder au site autant de fois que vous le voulez. Et voir des spectacles proposés sans supplément de prix, sauf pour certains qui sont proposés à des prix réduits. Donc, ça, en général, la carte, ça, c'est la, ça, c'est le prix de deux entrées. Donc, c'est vite. Donc, voilà, donc il y a ça. Autrement, donc, il y a les marchés nocturnes qui reviennent.
Ah.
Voilà, donc j'en ai relevé quelques-uns parce que le site, était, quand j'ai cherché, ce n'était pas à jour. Donc, j'en ai récupéré quand même quelques-uns. Donc, il y a Amboise, le quai du Général de Gaulle le mardi 18 juin. Donc, c'est très bientôt. Et le 1er août, donc, quai du Général de Gaulle. Et puis, le mardi 25 juillet. Et le 8 août, donc celui-là, je pourrais le redire le mois prochain, place de Saint-Denis, tout ça à Amboise. Il y a à Langeais le 21 juillet, à Luynes le jeudi 13 juillet, et puis à Tours, et place et rue de Châteauneuf, tous les vendredis et samedis jusqu'au 22 juillet, de 17h à 23h. Après, donc, les 13 et 14 juillet, donc, retour des bals populaires et des feux d'artifice.
Ah bon, il en reste ?
Oui, oui, il en reste. Ils nous ont pas tout pris. Heureusement, d'ailleurs. Donc, il y a le jour de chair aussi, le 22 juillet, avec de nombreuses animations à Bléré et dans les communes avoisinantes. Et la journée se clôturera par un spectacle pyrotechnique. Il y a la foire...
C'est d'un commun, en ce moment. Ça.
La foire à l'ail et au basilic, le 26 juillet, place des Halles à Tours. À la Gloriette, vous retrouverez aussi des animations gratuites ou payantes. Il y aura des concerts, des ateliers, des conférences aussi. Il y aura aussi au mois d'août, ça je redirai aussi le mois prochain, la Nuit des Étoiles le 12 août. Et cette année, il n'y aura qu'un cinéma en plein air au mois d'août. Il n'y en aura pas au mois de juillet. Autrement, vous retrouverez aussi différentes animations gratuites dans les bibliothèques et médiathèques du département avec des jeux, soit des après-midi lecture, des ciné-kids pour les enfants. Donc, il y a plusieurs animations. Donc, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque ou médiathèque. Vous pouvez aussi profiter des sorties plein air dans les parcs et jardins. Donc, il y en a beaucoup, de nombreux à Tours, donc qui sont très agréables, surtout quand il fait beau. Mais aussi sur les bords de Loire. Vous pouvez aussi profiter des plans d'eau du département comme Homme, Riez, Château-Lavalière. Où vous pouvez aussi, sur ces plans d'eau et ces lacs, profiter des joies de la baignade. Surveiller, bien entendu. Il y a aussi les expositions. Vous pouvez aussi... renseignez-vous auprès des centres sociaux et des diverses associations parce qu'il y a aussi... Ils proposent aussi des activités tout l'été. Donc, c'est... Voilà, il y en a certaines gratuites, d'autres avec une petite participation. Et puis autrement, vous pouvez aussi retrouver d'autres sorties sur le site KidiClick 37 et vous, pour voir, pour trouver des animations en famille ou avec les enfants. Et puis vous pouvez, si vous changez de département, si vous allez dans un département autre que l'Indre-et-Loire, par exemple en vacances, vous pouvez toujours, parce que KidiClick est présent dans plusieurs départements. Donc il suffit juste de dire KidiClick au lieu de dire 37, vous mettez par exemple 41 pour le Loir-et-Cher, 44 par exemple pour la Loire-Atlantique. Donc voilà, donc il y a plein de choses, donc il y a de quoi s'occuper pendant toutes les vacances.
On peut ajouter aussi qu'il y a les brocantes, les vignes.
Oui, les brocantes, oui, voilà.
De possibilités de promenade aussi, voilà. Des marchés des potiers aussi, enfin voilà, voilà, donc, pour compléter, parce qu'effectivement, la grande liste, le lac que Marie-Thérèse nous a donné, ça montre qu'on peut tous les week-ends trouver l'occasion d'avoir de belles activités.
On peut aller à la messe aussi, c'est gratuit.
La semaine. Puis il y a la semaine où il y a beaucoup de choses. Et puis il y a les marchés hebdomadaires aussi, c'est un lieu. Où les gens vont se balader souvent. Bon, il n'y a pas que pour faire les courses. Comme des fois, on retrouve des voisins ou des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc, on se tape la discute dans le marché. Donc, c'est un lieu vraiment de rencontre.
Voilà, des lieux conviviaux où il est possible de croiser des amis.
Donc, voilà. Donc, on a quand même pas mal de choses.
Ouais, entre deux séjours, all inclusive et à Ibiza.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est peut-être le moment de passer un peu de musique.
Oh bah oui, ça serait bien. Parce qu'en plus, j'ai fait un peu de rangement dans mes archives sonores et je vous ai retrouvé un truc. C'est un enregistrement privé qui nous a été fourni par les copains de Radio Bellevue à Lyon. Et bah, c'est le Doc Feelgood. C'est Doc Feelgood, et oui, avec Librio, qui était encore vivant à cette époque-là. Ça a été enregistré en 84, je crois. C'était à Mont-de-Marsan.
C'était à Mont-de-Marsan, The Lion Tapes. Effectivement, c'est Dr. Feelgood et nous allons entendre le titre suivant, Back in the Night.
In the Night.
Nothing left for me to do.
Le doc. Le doc feel good. On s'en lasse pas. Hein, Guylaine ?
Oui, de beaux morceaux de, comment dire, de guitare. Hein. On voit une certaine dextérité.
Ça fait du bien. C'était le doc feel good deuxième génération, c'est-à-dire sans Wilco Johnson, qui était le guitariste fou de la première époque, qu'on a eu le bonheur de voir à Tours dans ces années-là aussi. Et je ne sais pas si quelqu'un enregistrement tient de ça, de Wilco à Tours. J'ai quelques photos, mais je n'ai pas de son. On ne peut pas être partout. Allons. Bon, Guylaine, on ne va pas passer du temps à nos souvenirs rock'n'roll.
Bien. Eh bien, écoutez, cette semaine, ce mois-ci, je vais vous parler d'une thématique qui a émergé il y a très peu de temps, mais qui fait son chemin, en fin de compte, dans la conception du travail et du monde du travail et des salariés. Ça s'appelle la grande démission. La grande démission, The Great Resignation, en anglais ou en américain plus exactement, est un ample phénomène de démission professionnelle qui a commencé aux États-Unis à partir de juillet 2020, à la suite de la pandémie de Covid-19, lorsque des millions d'Américains insatisfaits de leur travail ou de leur salaire ont quitté leur emploi. Les métiers de la restauration et du commerce sont les plus touchés. Alors, l'apparition du terme, c'est un terme qui a été proposé dès 2019 par l'universitaire américain Anthony Klotz, qui anticipait qu'une fuite massive du marché du travail salarié était une suite logique des dérives du modèle capitaliste moderne. Selon lui, ce modèle a pris pour pierre angulaire la soumission des salariés aux intérêts de la finance. Alors, on voit apparaître à ce moment-là un phénomène qui peut paraître paradoxal. Alors, il est vrai que depuis les années 2000 jusqu'en 2019, le taux de démission aux États-Unis n'avait jamais dépassé les 2,4% des travailleurs par mois. Normalement, la hausse des taux de démission indique que les travailleurs pensent pouvoir trouver un emploi mieux payé. Cela correspond généralement à des périodes de stabilité économique et à des taux de chômage assez bas. Inversement, pendant les périodes de chômage élevées, les taux de démission ont tendance à diminuer car les taux d'embauche diminuent également. Par exemple, pendant la Grande Dépression, la Grande Récession des années 29-30, la grande crise qui a été suivie par la Seconde Guerre mondiale, enfin, il y a toute une démarche économique compliquée.
C'était cette époque-là, époque bénie, où on voyait les banquiers qui passaient de haut en bas le long des façades des immeubles, tout en disant « jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ».
Effectivement, ça a été une période vraiment catastrophique au niveau économique et qui a entraîné une crise économique gravissime au niveau mondial. Et bien donc, ce taux de démission aux États-Unis pendant la grande crise est passé de 2% à 1,3%, alors que le taux d'embauche était passé de 3,7% à 2,8%, donc une baisse des taux d'embauche. Le taux de démission aux États-Unis pendant la pandémie de Covid-19, on revient à notre période actuelle, ont initialement suivi ce schéma. En mars et avril 2020, un nombre record de 13,9 à 9,3 millions de travailleurs, soit 8,6% et 7,2%, ont été licenciés et le taux de démission est ensuite tombé à son niveau le plus bas en 7 ans, soit 1,6%. La plupart des licenciements et des démissions ont été le fait des femmes qui travaillent de manière disproportionnée dans des secteurs les plus touchés par les fermetures d'usines ou d'entreprises telles que les industries, les services et les garderies. Cependant, à mesure que la pandémie s'est poursuivie, les travailleurs ont paradoxalement quitté leur emploi en grand nombre, et ce malgré la persistance d'une pénurie de main-d'œuvre et d'un taux de chômage élevé. La pandémie aurait accentué la prise de conscience que la hiérarchie des rémunérations et des gains était sans aucun lien avec l'importance des fonctions exercées dans l'économie. Les métiers essentiels ont continué à travailler pendant la crise, alors qu'il s'agit de métiers mal reconnus et mal payés, et la finance a prospéré. Selon certains commentateurs, le discours sur le mérite et la justice de la société de marché s'est révélé n'être qu'une fable et les gens ont cessé d'y croire et n'ont plus voulu alimenter cette fiction provoquant leur démission. Selon la revue Nature, ce phénomène a aussi touché le monde scientifique, où l'on a vu un grand nombre de travailleurs réévaluer leur carrière et leur mode de vie et choisir de quitter leur emploi à la suite de la pandémie. Le milieu universitaire ne fait pas exception. De nombreux scientifiques décidant de quitter le secteur face à l'augmentation de la charge de travail, au biais systématique et à la pression de publier. Voilà une partie des raisons qui, aux États-Unis notamment, où on a vu débuter ce phénomène de la grande démission, et ce phénomène s'est amplifié au niveau mondial. Car ailleurs dans le monde, les chiffres sont moins impressionnants, mais une tendance de fond semble se dessiner. En Europe, une étude menée auprès de 5000 salariés montre que ce sont les Allemands qui démissionnent le plus, 6%, suivis par les Anglais, 4,7%, les Hollandais, 2,9%, et les Français, 2,3%, puis les Belges, 1,9%. En France, le marché du travail n'a d'ailleurs jamais semblé aussi dynamique. Entre juin et août 2021, Pôle emploi a enregistré plus de 900 000 offres d'emploi, soit 10% de plus par rapport à la même période un an plus tôt. Sans surprise, c'est dans les secteurs de la santé, plus 37%, de l'hôtellerie, restauration, tourisme, plus 23%, du transport, plus 15%, et de la construction et des travaux publics, plus 8%, que les offres d'emploi déposées par les entreprises sont les plus nombreuses. Concernant les métiers de l'hôtellerie, restauration, politiques comme professionnels du secteur concèdent un problème de rémunération. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, juge que les salaires, à l'époque elle était ministre du Travail, maintenant évidemment elle est notre première ministre, juge que les salaires ne sont pas à la hauteur, tandis que le président de la branche des saisonniers de l'UMIL propose une augmentation des salaires entre 6 et 8,5%, voire 9%, pour pallier les difficultés de recrutement. Le président Emmanuel Macron a de son côté annoncé la défiscalisation des pourboires par carte bancaire dans les prochains mois. Bon, c'est une bonne chose. Alors, pour les employeurs, le strict minimum de salaire n'est plus acceptable. Dans les secteurs où la rémunération est moins un enjeu pour fidéliser ou attirer les talents, les entreprises devront néanmoins faire des efforts. Côté marque employeur, il faudra dire et faire ce qu'on dit. Le télétravail étant devenu un prérequis pour de nombreux salariés, il faudra accepter le travail à distance. Pour les entreprises les plus audacieuses, la flexibilité devra également se faire au niveau des horaires de travail. En travaillant chez soi pendant des mois, tout en maintenant leur productivité, les salariés se sont habitués à gérer différemment leur emploi du temps et à bénéficier d'une certaine souplesse permettant par exemple d'aller chercher les enfants à l'école. Plus difficile à appréhender et à contrer, la perte de sens au travail est une autre réalité renforcée par la crise sanitaire. Or, selon une étude Ipsos pour les Échos publiée en 2020, 90% des salariés jugent essentiel, 55% ou important 35%, que leur entreprise donne un sens à leur travail. Pour cela, les entreprises peuvent proposer des formations et pas que des formations professionnelles, genre les formations Excel, et aussi permettre aux salariés d'assouvir leur curiosité. La progression de carrière est un autre enjeu important, de même que l'importance de bien comprendre la vision de l'entreprise et de se sentir pleinement impliqué dans cette dernière. Une autre thématique est la semaine de 4 jours de travail. La pandémie a montré qu'une autre organisation du travail était possible. Après la génération du télétravail, de nombreux pays et entreprises réfléchissent ainsi à la mise en place de la semaine de 4 jours. L'Islande, qui l'a expérimenté auprès de 2000 salariés entre 2015 et 2019, a récemment dévoilé des résultats encourageants. En effet, la productivité des salariés comme leur bien-être sont en nette progression, de quoi donner des idées. À l'Espagne notamment, qui va elle aussi lancer un test grandeur nature dès 2022. En France, ce n'est pas un débat au sein de la classe politique. Toutefois, certaines entreprises ont déjà sauté le pas. En 2021, l'entreprise informatique LDLC décide ainsi d'abaisser le temps de travail de 35 heures à 32 heures. S'il semble encore un peu tôt pour faire le bilan, son patron a tout de même déclaré aux Parisiens que son chiffre d'affaires est passé de 500 millions d'euros à 725 millions en 2021, avec une quinzaine d'embauches, dont quelques-unes liées aux 32 heures. Autre entreprise informatique à tenter l'expérience, IT Partner, est passé aux 32 heures en janvier de cette année. À l'AFP, son président a déclaré chercher à améliorer le bien-être des collaborateurs. Selon lui, le confinement a été révélateur de beaucoup de choses et les patrons doivent innover pour attirer les salariés. Les salariés étant aujourd'hui en situation de force, les entreprises devront clairement muscler leur politique RH, relations humaines, ressources humaines, pour les attirer. Mais aussi, et encore plus qu'auparavant, trouver comment les retenir le plus longtemps possible avant qu'ils partent voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc voilà quelques éléments de réflexion sur ce travail, ces grandes démissions et ces nouvelles évolutions. Il y a aussi un autre élément que l'on voit se décider qui s'appelle la démission silencieuse. Donc là, les entreprises sont prises à leur propre jeu. Donc, les stratégies de retrait du travail qui existent depuis la mondialisation se sont accélérées après la crise du Covid. Les redécouvrir sous l'étiquette de « quiet quitting », c'est-à-dire démission silencieuse, conduira peut-être les entreprises à repenser leur fonctionnement pour dépasser enfin le taylorisme. Quiet quitting, démission silencieuse, difficile d'échapper au buzz popularisé sur TikTok par cet anglicisme décrivant l'actuel désengagement du travail de la part des salariés. Chacun y va de son opinion pour tenter d'expliquer la situation. De l'accusatoire, jeune partisan du moindre effort, au sempiternel, collaborateur en perte de sens. Ignorant ce phénomène depuis plus d'une cinquantaine d'années par les sciences sociales, les sciences sociales ont donc déjà donné un nom à ce phénomène qui s'appelle les stratégies de retrait du travail. Ces comportements ont pris de l'ampleur quand les entreprises confrontées à une concurrence mondiale exacerbée ont tenté de fonctionner différemment. Quand leur modèle taylorien d'exécution de tâches précises et successives ne permet plus d'obtenir un niveau satisfaisant de qualité et de réactivité, elles demandèrent aux salariés des efforts supplémentaires pour faire preuve d'adaptabilité et de coopération. Et par peur de perdre le contrôle de l'exécution des tâches désormais moins définies et plus complexes, elles multiplièrent les procédures, les indicateurs et les pratiques coercitives de management, créant ainsi un cadre stérile, voire stressant, de plus en plus démotivant pour les salariés. Pendant le confinement, les salariés ont fait le job. La question est donc moins de savoir si le phénomène bien connu existe que de comprendre les causes de son accélération, particulièrement chez les jeunes. Les études que nous menons et enrichissons depuis 3 ans, auparavant auprès de diverses organisations publiques et privées, nous ont permis de comprendre que, si les situations diffèrent d'un contexte à l'autre, quelques enseignements généraux expliquent la situation actuelle. Le management. Donner et recevoir du feedback pour réhumaniser le travail. Les études montrent en effet que la pandémie a profondément changé le rapport des salariés à l'autonomie, car dans la majorité des cas, ils ont su gérer avec succès cette crise hors norme en s'affranchissant de process et de contrôles inadaptés pour se concentrer avec leur encadrement de proximité sur l'essentiel. Ils ont fait le job. Quand bien même le risque sanitaire était angoissant, passant d'une espérance à une expérience réussie de fonctionnement en confiance. Il y a aussi la défiance et le contrôle qui sont de retour. Pourtant, très peu d'organisations ont engagé le travail nécessaire pour capitaliser sur les acquis de cette période. La plupart sont revenus aux pratiques anciennes de défiance, de contrôle, de reporting, qui alimentent d'autant plus puissamment les stratégies de retrait qu'elles sont la négation du remarquable esprit des équipes pendant la pandémie. Alors quand on pousse plus avant les investigations, on comprend pourquoi la défiance envers le télétravail accentue particulièrement les stratégies de retrait du travail. Car nombre de sociétés ont posé un cadre rigide, uniforme et limité. Un lundi ou un vendredi télétravailler est souvent vu comme un week-end prolongé pour forcer les collaborateurs à revenir au travail. Déjà démotivant pour des raisons expliquées plus haut, une grande part du travail qui aurait pu être fait à distance se voit désormais imposée sur site. Sous couvert de socialisation indispensable ou d'équité envers celles et ceux qui, par nature de leur travail, ne peuvent l'effectuer à distance, un retour forcé dans les locaux est devenu des flex office, des locaux qui sont devenus des flex office impersonnels, a pour justification souvent inavouable de s'assurer que les gens travaillent réellement. Donc les salariés prennent maintenant les employeurs à leur propre jeu. Les salariés prennent alors les entreprises à leur propre jeu pour qu'on les prive excessivement puisqu'on les prive, pardon, excessivement d'autonomie et qu'on gaspille leur temps dans les transports, sans véritable raison, ils n'ont en retour aucune raison de faire davantage que ce qui est stricto sensu dans leurs attributions et réservent leur supplément d'engagement aux sphères privées ou associatives. Redécouvrir sous l'étiquette du quiet quitting l'existence de stratégies de retrait du travail amènera peut-être les entreprises à profondément repenser leur fonctionnement pour dépasser enfin le taylorisme. Car l'intensité du phénomène actuel atteste que, comme pour le climat, il y a urgence. Alors, un autre petit commentaire sur la démission silencieuse. Donc, après la grande démission, c'est au tour de la démission silencieuse d'être virale sur les réseaux sociaux. Elle privilégie le bien-être au travail sans se faire licencier. Donc, le hashtag Quiet Quitting vient d'atteindre les 40 millions de vues sur TikTok, appelée en France démission silencieuse. Cette nouvelle tendance consiste à travailler le strict minimum dans son entreprise, mais sans se faire virer, et de le partager sur l'application vidéo. Comme c'est malin. Alors, elle est une conséquence directe d'une autre tendance issue des réseaux sociaux, elle aussi d'origine américaine, la grande démission. Les deux années de crise sanitaire ont eu une influence directe sur l'approche des employés vis-à-vis de leur travail. Les individus se sont à la fois reposés, puis dans un deuxième temps, interrogés sur leur travail et leur mode de vie. Alors, c'est un commentaire que sur RTL a fait Jean-Claude Delgen, le président de Technologica, cabinet spécialisé dans la prévention des risques au travail. Le ministère du Travail avait dévoilé le même jour une étude de la DARES révélant que 520 000 démissions avaient été enregistrées lors du premier trimestre 2022. C'est pas rien quand même. Avec la démission silencieuse, pas question de quitter son travail. Les employés se contentent de faire uniquement ce qui est écrit dans leur fiche de poste, ni plus ni moins. Ainsi, ils respectent scrupuleusement les horaires et les tâches pour lesquelles ils ont signé. C'est donc la culture d'entreprise traditionnelle qui est critiquée. Fini l'engagement et le dévouement envers son employeur à base d'heures supplémentaires non payées ou de responsabilités démesurées. La vie, ce n'est pas le travail, il y a des choses à côté, a d'ailleurs confirmé sur RTL une employée de la Défense. Qui travaille à la Défense. Cette quête de bien-être au travail s'explique en partie par la pandémie et le bouleversement des méthodes de travail, mais aussi par un marché du travail extrêmement favorable, avec 65% des entreprises industrielles et plus de 80% des acteurs du BTP qui disent avoir du mal à recruter. La peur du chômage n'est plus, indiqué le 19 août dernier, donc chef de service de l'économie sur RTL, n'est plus l'élément le plus inquiétant. Donc on voit qu'on est en train aussi d'évoluer, notamment dans les mentalités concernant l'emploi et ce que recherchent vraiment les salariés dans leur travail et dans leur entreprise. Et maintenant, la balle est dans le camp des employeurs aussi et des entreprises de façon à adapter, en fin de compte, à la fois les horaires de travail, à la fois les exigences de travail, à la fois les buts, etc. Enfin, et les salaires, bien entendu. Je te repasse la parole, Alain.
Ah, ben c'est très bien. J'étais en train de mettre tout ça en pratique. Déjà que nous, c'est ce qu'on fait à Radio Béton depuis très longtemps. On en fait, mais alors vraiment le minimum, hein, une émission par mois. Et le reste du temps, on ne fout rien. C'est un spécial feignasse. C'est ça qui est bien. Donc hier, j'ai rien foutu. Puis là, je continue parce que je n'avais pas terminé. Donc, tout va bien.
Bon, Alain n'est pas exemplaire dans son explication, mais enfin, sachant qu'à Radio Béton, en fait, on est bénévole et donc là, on n'est pas dans situation de travail avec une fiche de poste et un certain nombre de choses obligatoires à effectuer.
Waouh, c'est un détail, ça.
De toute façon, il va falloir revoir tout parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, il faut quand même que les parents puissent s'occuper de leurs enfants. Donc, s'ils sont au travail, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et après, qu'on ne dit pas que c'est les parents qui démissionnent parce qu'ils ne peuvent pas être en train de travailler et surveiller leurs enfants. Il faut absolument voir rebâtir notre société qui est vraiment rendue. C'est désastreux.
Ah ouais, il y a du boulot là. Hein.
Oui, mais il va falloir quand même y penser. Parce que...
Bah oui, mais c'est pas un truc de feignasse. Hein.
En fait, il y a de grands chantiers à mener hein, au niveau
Y a du boulot dans le BTP.
Social, à tous les niveaux.
C'est sûr.
Et bon, ben, on va tous y réfléchir ensemble. Maintenant, on verra bien ce que disent nos responsables hein, au niveau le plus haut.
Parce que là, on entend qu'il veut sanctionner les parents parce qu'ils ne surveillent pas leurs gamins et tout, ils démissionnent. Non, mais... Qu'on arrête là, la société, tout le monde a démissionné de toute façon, personne ne respecte rien. Donc comment voulez-vous que nos enfants respectent quelque chose? Si en haut, ils ne respectent même pas ceux qui sont en bas, c'est sûr que ça ne marchera jamais. Donc il faut absolument que les choses changent et que tout le monde réfléchisse à refaire une société mieux.
Vaste programme.
Oui, oui.
Vaste programme et vaste réflexion. Il faut que les uns et les autres aillent les uns vers les autres de façon à échanger sur leur point de vue, sur leurs difficultés, sur leurs objectifs pour enfin déboucher, aboutir à quelque chose de positif et qui puisse être acceptable pour tout le monde.
Ben voilà, on va se tenir au courant pour savoir si y a quelque chose de prévu ces temps-ci chez nous à Tours. C'est pas impossible d'ailleurs. Et bien, nous, dans la mesure de nos modestes moyens, on y participera. Donc, en plus, on est invité à Bléré. On est invité à Bléré.
Oui, mais on peut aller préparer notre émission à Bléré.
Oui, ouais, voilà. ouais, c'est bien. Puis il y a à boire là-bas.
Mais il pense qu'à ça. Hein.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des jus de fruits, donc ça
oui,
va.
Voilà. Non, mais Alain, il n'est plus sur le café.
Ah oui. Chut. Ne dévoile pas toutes mes perversions comme ça. Chut. Non, bon. Allez. Bah écoute, il va être bientôt l'heure de... il va bientôt être l'heure de...
De rendre l'antenne. Voilà.
De rendre l'antenne.
Voilà.
On a une petite minute ou deux d'avance, mais ce n'est pas trop grave.
Bon, voilà. Donc, on va se revoir le mois prochain, le 1er août. Hein, voilà.
Le 1er août.
Oui, le 1er août.
D'accord.
Donc, voilà.
Oui, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial, on sera en plein dans les vacances.
Mais il y aura peut-être des choses qui seront faites. Justement, il faudra bien vraiment être à l'écoute de ce qui peut se passer parce que nos chers et ceux qui sont à la tête là-haut peuvent nous pondre des choses dans notre dos.
Au mois d'août, ça m'étonnerait quand même.
Non, au mois de juillet déjà. On sera que le 1er août, hein, ouais, Alain. Donc, il faut quand même surveiller tout ça parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faites dans notre dos qu'on ne sait pas.
Alors, soyons vigilants et puis, donc, au mois prochain.
Et puis, on demande de toute façon à tous ceux qui sont sur notre groupe. Hein, surtout, n'hésitez pas à nous faire parvenir si vous avez des choses à nous dire ou si vous avez vu des documents, des choses comme ça qui... sont sur les sujets qui nous tracassent actuellement, n'hésitez pas à nous les mettre sur notre groupe.
Sur notre groupe. D'ici là, allez sur Facebook.
Sur notre groupe.
Il y a des choses intéressantes.
Allocataires du RSA, des gens comme les autres. Et on vous dit au mois prochain.
Le 1er août, salut tout le monde. Salut les feignasses.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens.